Extrait des chroniques du hors-temps. Le choix du porte-épée. 10 minutes entre la survie et la destruction. Le premier système de dissuasion de la forêt sombre avait consisté à élaborer le projet du déploiement de 3000 bombes nucléaires enveloppées dans de l'oléatine. La poussière générée par la détonation aurait eu pour effet de faire scintiller le soleil et de diffuser dans l'univers les coordonnées du monde trisolarien. Si son efficacité à l'échelle du cosmos était importante, ce système n'en demeurait pas moins terriblement imprévisible et finalement assez peu fiable. Quand les gouttelettes avaient cessé de bloquer les rayonnements électromagnétiques solaires, l'humanité avait aussitôt complété le système fondé sur la chaîne de bombes dans l'espace par un système de diffusion d'ondes électromagnétiques vers le Soleil, qui pourrait amplifier la portée des messages transmis. Les deux systèmes reposaient sur les rayonnements électromagnétiques sur toutes les fréquences, y compris le spectre visible, comme intermédiaire de diffusion. Il est désormais bien connu que cette méthode était probablement le moyen de communication interstellaire le plus primitif de tous, à tel point qu'on a parfois pu le comparer à un envoi de signaux de fumée dans l'espace. En vertu de l'atténuation et de la distorsion rapide des ondes électromagnétiques, le périmètre de diffusion se trouvait en effet très limité. Au moment de l'établissement de la dissuasion de la forêt sombre, l'humanité commençait déjà à maîtriser les techniques de base en matière de réception d'ondes gravitationnelles et de neutrinos. Mais il lui manquait encore celles qui lui permettraient de les transmettre et de les moduler. Rien d'étonnant donc à ce que les premières demandes d'informations technologiques auprès des trisolariens aient concerné ces deux domaines. Si ces deux technologies restaient rudimentaires par rapport à la communication quantique et que leur rapidité de transmission était limitée par la vitesse de la lumière, elles étaient d'un niveau bien supérieur à la communication par ondes électromagnétiques. Les ondes gravitationnelles et les neutrinos avaient en outre l'avantage de présenter un faible taux d'atténuation et pouvaient par conséquent transmettre des signaux à une distance très lointaine. C'était en particulier le cas pour les neutrinos, qui n'interagissait presque avec aucune autre substance. En théorie, un faisceau de neutrinos modulé correctement était en mesure de convoyer un message jusqu'à l'autre bout de l'univers sans que l'atténuation ou la distorsion produite lors de son trajet n'affecte son déchiffrage final. Mais alors qu'un faisceau de neutrinos ne pouvait être orienté que dans une direction bien précise, les ondes gravitationnelles pouvaient se répandre dans toutes les directions de l'univers. Aussi, ce fut donc la diffusion par ondes gravitationnelles qui fut adoptée comme méthode principale pour la dissuasion de la forêt sombre. Le principe de base de la transmission par ondes gravitationnelles s'appuyait sur la vibration d'une longue corde de matière extrêmement dense. L'antenne de transmission idéale aurait consisté à édifier une longue chaîne de micro-trous noirs, grâce à la vibration de laquelle il aurait été possible de transmettre des ondes gravitationnelles. Mais c'était là une prouesse technologique dont même le monde trisolarien était incapable, et l'humanité dut se rabattre sur une méthode davantage à sa portée. Imaginez une corde vibrante de matière dégénérée. Ce genre de corde ultra-dense ne présentait un rayon que de quelques nanomètres et n'occupait qu'un espace minuscule à l'intérieur d'une antenne gigantesque. L'antenne avait en réalité pour seule utilité de maintenir et de protéger cette corde extrêmement dense, si bien que sa masse totale n'était pas très élevée. La matière dégénérée qui composait ces cordes vibrantes existait à l'état naturel sur les naines blanches et les étoiles à neutrons. Dans un environnement ordinaire, elle finissait par se désintégrer et devenir de la matière ordinaire. La durée de demi-vie d'une corde artificielle atteignait en moyenne 50 ans. Arrivée à ce stade, l'antenne perdait toute son efficacité. C'est pourquoi il était nécessaire de procéder au remplacement des antennes à ondes gravitationnelles tous les demi-siècles. La première étape stratégique fut de garantir l'effet de la dissuasion. On planifia par conséquent de bâtir 100 stations de diffusion d'ondes gravitationnelles qui seraient réparties dans différentes régions des grands continents. La communication par ondes gravitationnelles souffrait toutefois d'un défaut. L'équipement de transmission ne pouvait pas être miniaturisé. En raison du volume et de la complexité des antennes, Leur prix était exorbitant et seuls 23 transmetteurs gravitationnels furent en fin de compte construits. Mais la confiance dans la préservation de l'effet de la dissuasion fut ébranlée par un autre événement. L'organisation Terre Trisolaris s'était peu à peu effritée au lendemain de l'établissement de la dissuasion, mais d'autres organisations terroristes avaient commencé à voir le jour. Fondamentalement anthropocentristes, leurs membres militaient pour l'annihilation pure et simple du monde de Trisolaris. Les Fils de la Terre comptaient parmi les groupes radicaux les plus importants. En l'an 6 de l'ère de la dissuasion, les Fils de la Terre lancèrent une attaque contre la station de transmission basée en Antarctique afin de s'emparer du transmetteur. Plus de 300 adeptes du groupe firent ainsi usage d'armes avancées telles que des grenades nucléaires infrasoniques. Aidés par des complices infiltrés dans la station, ils faillirent bien réussir leur opération. Si les troupes de sécurité n'avaient pas fait exploser l'antenne à temps, les conséquences auraient pu être dramatiques. L'incident souleva une vague de terreur au sein des deux mondes. La population humaine prit conscience de la menace que faisaient peser ces stations de transmission. Trisolaris exerça de son côté une pression sur la Terre pour qu'elle renforce drastiquement le contrôle de ses plateformes, qui furent bientôt réduites au nombre de 4. 3 d'entre elles étaient respectivement situées en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, et la dernière était à bord du Gravité. Tous les transmetteurs étaient reliés à un mécanisme de détonation actif. Le détonateur passif du système du berceau, naguère imaginé par Luoji pour déclencher l'explosion de la chaîne de bombes nucléaires autour du Soleil, n'avait déjà plus aucun sens, car la situation avait changé. Si le porte-épée venait à mourir, quelqu'un d'autre pourrait désormais récupérer l'autorité sur le système de diffusion. Les gigantesques antennes à ondes gravitationnelles avaient tout d'abord été construites à la surface, mais avec le progrès de la technologie, celles-ci furent déplacées sous terre à partir de l'an 12 de l'ère de la dissuasion. Cependant, tous savaient parfaitement que l'enfouissement des transmetteurs à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur était surtout destiné à endiguer les menaces provenant des sociétés humaines elles-mêmes. Cette stratégie ne serait d'aucun secours en cas d'offensive trisolarienne. En effet, pour une gouttelette faite dans un matériau utilisant l'interaction forte, les strates géologiques terrestres de plusieurs dizaines de kilomètres qui protégeaient les transmetteurs pouvaient être traversées aussi facilement que si elles étaient liquides. Après l'établissement de la dissuasion, la flotte trisolarienne qui faisait route vers le système solaire avait changé de direction, ce qu'avaient pu prouver les techniques d'observation humaine. La Terre était maintenant préoccupée par l'emplacement des 10 gouttelettes ayant déjà gagné le système solaire. Trisolaris insista pour que 4 d'entre elles demeurent dans le système solaire, en prétextant que les deux mondes n'étaient pas à l'abri d'une offensive de groupuscules humains contre les stations de transmission à ondes gravitationnelles et que, dans une telle situation, les sondes cosmiques à interaction forte pourraient passer à l'action. La Terre accepta à contre-cœur, mais en exigeant que les 4 gouttelettes stationnent au-delà de la ceinture de Kuiper, en bordure extérieure du système solaire. En outre, chaque gouttelette devait être accompagnée d'une sonde humaine qui pourrait à tout moment superviser sa position et son orbite. Ainsi, dans l'éventualité d'une attaque trisolarienne, la Terre disposerait de 50 heures devant elle. 2 de ces 4 gouttelettes avaient suivi le Gravité dans sa chasse de l'espace bleu, et il n'en restait plus que 2 au niveau de la ceinture de Kuiper. Personne ne savait où se trouvaient réellement les 6 autres gouttelettes. Si l'on en croyait les trisolariens, celles-ci avaient déjà quitté le système solaire pour rejoindre la flotte. Mais personne n'était dupe. Les trisolariens n'étaient plus les créatures aux pensées transparentes de jadis. En 2 siècles, ils avaient fait de grands progrès pour assimiler la ruse et le mensonge. C'était probablement le plus grand bénéfice qu'ils avaient su tirer de l'apprentissage de la culture humaine. Les humains étaient persuadés que la plupart de ces 6 gouttelettes se cachaient quelque part dans le système solaire. Mais en raison de leur volume et de la rapidité de leur moteur, elles étaient invisibles pour les radars et on était bien incapable de pouvoir les suivre et les localiser. Même avec la méthode de dispersion d'oléatine et les techniques d'observation spatiale les plus récentes, L'humanité n'était en mesure de surveiller avec efficacité qu'un rayon d'un dixième d'une unité astronomique autour de la Terre, soit 15 millions de kilomètres. Et si jamais les gouttelettes pénétraient dans ce périmètre, la Terre pourrait en être informée, mais au-delà, elle pouvait se déplacer tout à fait librement. Lancée à sa vitesse maximale, une gouttelette n'avait besoin que de 10 minutes pour franchir cette zone de 15 millions de kilomètres. C'était le temps dont disposait le porte-épée pour prendre son ultime décision. Il y eut un bruit de roulement sourd. La lourde porte en métal de plus d'un mètre d'épaisseur s'ouvrit lentement. Cheng Xin, le président du CDP et le chef d'état-major de la flotte solaire, pénétrèrent au cœur du système de dissuasion de la forêt sombre. Une blancheur et un vide plus grand encore accueillirent Cheng Xin. Il se trouvait dans une vaste salle semi-circulaire. En face d'eux se dressait un mur incurvé à la surface translucide, comme s'il était de glace. Le sol, comme le plafond, était d'un blanc immaculé, ce qui procura aussitôt la sensation à Cheng Xin de se tenir devant un œil sans pupille, dont la contemplation distillait une impression sinistre de désolation. Puis Cheng Xin vit Luo Ji. Celui-ci était assis en tailleur au centre de la salle. Il faisait face au mur incurvé. Ses longs cheveux et sa longue barbe étaient soigneusement peignés et d'une blancheur qui les faisait presque se fondre avec le mur, offrant un contraste saisissant avec sa veste noire à col Mao. Assis les jambes croisées, il avait la forme d'un T à l'envers. Il ressemblait à une ancre solitaire en équilibre sur une plage, subissant les hurlements du vent des âges et les rugissements des vagues du temps, majestueuse, immobile, attendant avec une endurance inouïe un navire qui ne reviendrait jamais. Sa main droite tenait un objet rouge, la poignée de l'épée, l'interrupteur permettant d'activer la diffusion des ondes gravitationnelles. Sa présence rendait sa pupille à l'œil vide. Et bien qu'il ne soit qu'un point noir au milieu de l'immensité de la salle, le sinistre sentiment de désolation de tantôt s'évanouit, car l'œil était bien vivant. Depuis sa position, Cheng Xin ne pouvait cependant voir les yeux de Luo Ji. Il n'avait pas réagi à l'entrée de ses visiteurs, il continuait à fixer le mur blanc devant lui. Si la légende selon laquelle un mur se fissure tous les 10 ans disait vrai, celui de Luo Ji aurait été fissuré 5 fois. Le président du CDP arrêta Cheng Xin et le chef d'état-major, expliquant à voix basse qu'il restait encore 10 minutes avant le transfert. Les 10 dernières minutes d'un sacerdoce long de 54 ans, mais Luo Ji maintenait encore sa vigilance. Au début de l'ère de la dissuasion, Luo Ji avait connu une période heureuse. Son épouse Chuang Yan, leur enfant et lui étaient enfin rassemblés, et ils regoutaient à la chaleur d'un bonheur commencé 2 siècles plus tôt. Mais cela avait été de courte durée car au bout d'à peine 2 ans, Chuang Yan l'avait quitté, emportant leur fille avec elle. Il courait de nombreuses rumeurs autour des raisons de ce départ. La plus répandue était celle-ci. Tandis que Luo Ji devenait pour le grand public le sauveur du monde, son image changeait dans les yeux de ceux qui l'aimaient. Chuang Yan avait peu à peu pris conscience que l'homme à côté duquel elle se réveillait chaque matin avait peut-être pulvérisé un monde et qu'il détenait entre ses mains le sort de 2 autres. Il était devenu une créature étrange et monstrueuse qui les effrayait, elle et l'enfant. D'autres soutenaient au contraire que c'était Luo Ji qui était parti, afin de leur laisser la chance de mener une vie normale. On ignorait ce qu'il était ensuite advenu de Chuang Yan et de la petite. Elles étaient probablement encore en vie, coulant des jours tranquilles de personnes ordinaires. Le départ de Chuang Yan et de leur enfant avait coïncidé avec le changement de méthode de dissuasion, passant de la chaîne de bombes nucléaires éparpillées autour du Soleil à l'utilisation de transmetteurs d'ondes gravitationnelles. Ce changement avait marqué pour Luo Ji le début de sa longue carrière de porte-épée. Le duel cosmique auquel il se livrait n'était ni une épreuve d'arts martiaux chinois aux gestes dansants et théâtraux, ni une joute d'escrime occidentale aux techniques sophistiquées et fanfaronnes, mais un combat de kenjutsu, jusqu'à la mort. Les véritables duels au sabre japonais duraient généralement d'une demi-seconde à 2 secondes, car au moment où la lame sortait, l'un des deux bretteurs était déjà à terre, allongé dans une mare de sang. Avant que le combat ne s'engage, les deux adversaires se tenaient debout, aussi figés que des statues de pierre, à se toiser l'un l'autre. Cela pouvait durer longtemps, parfois jusqu'à 10 minutes. Ce n'étaient pas les mains qui tenaient les sabres, mais l'esprit. Leur lame, aiguisée par le regard, lardait l'âme de l'ennemi jusque dans ses tréfonds les plus intimes. C'était ici que se jouait l'issue du duel, dans ce silence suspendu, dans cet instant où les épées mentales frappaient et tuaient telle une foudre muette. Avant même que le premier coup soit porté, la victoire et la défaite, la vie et la mort, tout était déjà scellé. C'était avec de tels yeux que Luoji fixait le mur blanc, qu'il tenait tête à ce monde distant de 4 années-lumière. Il savait que, grâce aux intellectrons, l'ennemi pourrait voir son regard, ce regard aussi glacial que le souffle de l'enfer, aussi lourd que les roches au-dessus de sa tête, ce regard résolu, prêt à tout sacrifier. Ce regard faisait peur à l'ennemi, et c'était lui qui le prémunissait contre la moindre pulsion irréfléchie. Cette joute visuelle entre les deux duellistes avait forcément une fin, un dénouement lors duquel devrait éclater un choc éphémère. Dans ce duel cosmique, le moment de sortir l'épée de son fourreau n'arriverait cependant peut-être jamais. Mais il pouvait aussi survenir dans la prochaine seconde. Luoji et Trisolaris se dévisageaient ainsi depuis 54 ans. Jadis cynique et insolent, Luoji était devenu un vrai colmateur, faisant depuis 5 décennies face à son mur, garant depuis 1 demi-siècle du salut de la civilisation terrienne, la main sur le pommeau de son épée. Durant ces 54 années, Luoji était resté silencieux, ne prononçant pas le moindre mot. Un homme ordinaire qui ne fait pas usage de la parole pendant 10 ou 15 ans perd la faculté de s'exprimer par le langage. Il peut certes entendre et comprendre, mais ne peut plus parler. Et Luoji ne pouvait plus. Tout ce qu'il avait à dire était projeté par son regard sur le mur. Il s'était transformé en machine de dissuasion, en mine qui, chaque seconde de ce demi-siècle, avait menacé d'exploser au moindre contact, préservant cette balance effrayante entre les deux mondes. Il est maintenant temps de procéder au transfert de l'autorité sur le système de diffusion d'ondes gravitationnelles, déclara solennellement le président du CDP, brisant le silence. Luoji demeura immobile, figé dans la même position. Le chef d'état-major s'avança pour l'aider à se relever, mais le porte-épée leva la main gauche pour l'arrêter. Cheng Xin remarqua que son geste était encore tonique et ne trahissait pas la lenteur qu'on aurait pu attendre d'un homme centenaire. Puis Luoji se leva et se redressa sur ses jambes. Cheng Xin fut surprise de remarquer qu'il était passé sans peine d'une position assise en tailleur à debout, sans même que ses mains touchent le sol. Une prouesse que bien des jeunes avaient du mal à accomplir. Monsieur Luoji, je vous présente Cheng Xin, qui a été élu 2e titulaire de l'autorité sur le système de diffusion d'ondes gravitationnelles. Veuillez lui remettre l'interrupteur. Luoji était parfaitement droit sur ses jambes. Il regarda un dernier instant ce mur qu'il avait fixé pendant 1 demi-siècle, puis il s'inclina devant lui. Il présentait ses respects à son ennemi. Après s'être toisé à une distance abyssale pendant 5 décennies, leur destin était lié. Puis il se retourna vers Cheng Xin. L'ancien porte-épée et sa successeur se tinrent silencieusement l'un face à l'autre. Leurs regards ne se croisèrent qu'un bref instant, mais, pour Cheng Xin, ce fut comme si un rayon tranchant de lumière dissipait brutalement la nuit sombre qui s'était levée sur son âme. Dans ses yeux, elle se sentit aussi fine et légère qu'une feuille de papier, presque entièrement transparente. Elle avait peine à imaginer à quel niveau d'éveil ce vieil homme était parvenu après 5 décennies à fixer son mur. Avec le temps, ses pensées s'étaient peut-être sédimentées jusqu'à prendre une épaisseur aussi imposante que la croûte au-dessus de leur tête, ou bien peut-être était-elle devenue aussi éthérée que le ciel bleu qui surplombait les roches. Elle ne le saurait jamais, du moins pas avant d'avoir parcouru comme lui ce chemin. Elle ne pouvait rien lire d'autre dans ce regard qu'une profondeur insondable. De ses deux mains, Luoji remit l'interrupteur à Cheng Xin, qui accepta de la même manière l'objet le plus lourd de l'histoire de la Terre. Et c'est ainsi que le pivot sur lequel reposait l'avenir de deux mondes passa des mains d'un vieil homme de 100 ans à une jeune femme de 29. L'interrupteur était encore imprégné de la chaleur de la paume de Luoji. Il ressemblait en tout point à la poignée d'une épée. Il possédait 4 boutons, dont l'un était placé au-dessus des 3 autres. Pour prévenir d'une activation accidentelle du système, il fallait non seulement les presser avec beaucoup de force, mais également dans un ordre précis. Luoji recula lentement et hocha légèrement la tête devant ses visiteurs, puis il se tourna et partit d'un pas assuré vers la grande porte. Cheng Xin avait noté que tout au long de la cérémonie, personne n'avait remercié Luoji pour ses 54 ans de service. Elle doutait que le président du CDP ou le chef d'état-major ait voulu dire quelque chose, car durant toutes les répétitions auxquelles elle avait participé à la surface, rien n'avait été exprimé en ce sens. L'humanité n'était pas reconnaissante envers Luoji. Une fois dans le hall d'entrée, des hommes vêtus de noir l'empêchèrent d'aller plus loin. L'un d'eux déclara « Monsieur Luoji, au nom du magistrat de la Cour de justice internationale, je vous informe que vous êtes soupçonné de mendicide. Vous allez être placé en détention provisoire en attendant la suite de l'enquête. » Luoji ne jeta aucun regard sur ces individus. Il continua à marcher vers la porte de l'ascenseur. Ceux qui étaient venus l'arrêter lui frayèrent instinctivement un chemin. En réalité, Luoji n'avait pas détecté leur présence. Les rayons perçants de ses yeux s'étaient éteints et faisaient maintenant place à la clarté paisible d'un soleil couchant. Sa longue mission de 3 siècles avait pris fin et le lourd fardeau qui pesait sur ses épaules l'avait quitté. Désormais, peu importait qu'il soit un démon ou un monstre aux yeux de cette société humaine féminisée, tous seraient forcés de reconnaître que, dans l'histoire de la civilisation à venir, sa victoire ne serait jamais égalée. La porte en métal était encore ouverte. Cheng Xin entendit des voix dans le hall d'entrée. Elle eut soudain envie de se ruer vers eux et de remercier Luoji, mais elle se contrôla et se contenta de regarder tristement la silhouette de son prédécesseur disparaître dans l'ascenseur. Puis le président du CDP et le chef d'état-major partirent à leur tour, toujours sans un mot. Lorsque la porte se referma dans un grondement, Cheng Xin eut la sensation que sa vie antérieure avait fui comme dans un entonnoir à travers la fente de plus en plus étroite de la porte. Quand celle-ci fut enfin close, une nouvelle Cheng Xin était née. Elle fixa à nouveau l'interrupteur rouge entre ses mains. Il faisait déjà partie d'elle, il ne la quitterait plus désormais. Même dans son sommeil, elle devrait le garder sous son oreiller. Une chape de silence mortel s'empara de cette salle semi-circulaire blanche, comme si le temps avait été enfermé ici pour ne plus jamais s'écouler. C'était un tombeau, mais il constituerait dorénavant l'intégralité de son monde. Elle devrait tout d'abord redonner de la vie à ce lieu. Elle ne s'imaginait pas vivre comme Luoji. Elle n'était ni guerrière, ni duelliste, c'était une femme. Elle devait se préparer à demeurer ici longtemps, 10 ans peut-être, ou bien la moitié d'un siècle. Il lui semblait que toute sa vie s'était passée dans l'attente de cette mission. À présent, au point de départ de cette longue route, elle était calme. Mais c'était sans compter sur les étranges caprices du destin. Sa carrière de porte-épée, pour laquelle elle croyait s'être préparée depuis son premier jour, prit fin seulement 15 minutes après qu'elle ait reçu l'interrupteur rouge.